Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. La République tchèque suspend la ratification de l'accord anti-contrefaçon ACTA. La production industrielle tchèque a augmenté l'année dernière de 6,9%. La République tchèque continue à grelotter. Plus de 90 records de température ont été battus dans la nuit de dimanche à lundi. Après la Pologne, c'est la République tchèque qui a annoncé ce lundi la suspension du processus de ratification de l'accord commercial anti-contrefaçon ACTA. D'après le Premier ministre Petr Nečas, le gouvernement entend analyser les conséquences réelles du traité. Le gouvernement a ainsi réagi à plusieurs événements survenus dans les derniers jours. Après la signature de l'accord par la République tchèque fin décembre à Tokyo, un millier de personnes ont manifesté dans les rues de Prague et plusieurs attaques informatiques avaient frappé les sites web gouvernementaux du pays, ainsi que celui du Parti civique démocrate ODS, principale formation de droite et membre de la coalition gouvernementale. Ce lundi, les hackers ont envoyé aux médias les données personnelles de plusieurs milliers de membres du parti, en appelant les dirigeants tchèques à suivre l'exemple des autorités polonaises. La semaine dernière, le Premier ministre polonais Donald Tusk avait en effet laissé entendre que son pays pourrait ne pas ratifier le document. Le président de la République, Václav Klaus, a signé 2 amendements visant à améliorer la reconnaissance des qualifications professionnelles des Tchèques ainsi que des ressortissants des pays de l'Union européenne. Les lois en question permettront de reconnaître des qualifications des personnes non diplômées mais ayant une longue expérience professionnelle. De même, ces textes simplifient les procédures administratives auxquelles sont soumis les experts de l'Union européenne venant travailler en République tchèque pour une période de courte durée. Au cours de l'année 2011, la production industrielle en République tchèque a augmenté de 6,9%. L'information a été communiquée ce lundi par l'Office tchèque des statistiques. Cette croissance serait due notamment à la production de voitures, de machines et de construction mécanique. La production automobile a augmenté au cours de l'année dernière de 21,2%. La hausse de la production de machines et d'installations industrielles a atteint 12,3%. Et la production d'articles de caoutchouc et de matière plastique a augmenté de plus de 10%. La nuit de dimanche à lundi, en République tchèque, a été particulièrement glaciale. Les records de température ont été battus dans 93 des 178 stations de l'Institut hydrométéorologique dans la commune de Kvilda, dans le massif de la Šumava, en Bohême du Sud. Le mercure est descendu jusqu'à moins 39 degrés. Selon les météorologues, les températures pourront légèrement remonter dans les prochains jours, mais elles devraient à nouveau baisser en fin de semaine. Le froid a fait déjà 17 victimes en République tchèque. Les livraisons du gaz que la République tchèque importe de Russie par un gazoduc traversant l'Ukraine et la Slovaquie ont augmenté ces derniers jours, mais restent toujours réduites de 20% par rapport à la normale. Une déclaration de Martin Chaloupski, attaché de presse du groupe RVE, qui importe le gaz russe en République tchèque. Le groupe RVE compense cette réduction par le gazoduc Nord Stream traversant la mer Baltique et l'Allemagne. D'après Martin Chaloupski, la situation continuera à se stabiliser dans les prochains jours. Dans l'actualité culturelle, le danseur et chorégraphe tchèque Pavel Liška a obtenu en Allemagne le prix national de la danse 2012. Originaire de Prague, Pavel Liška, 61 ans, a quitté sa ville natale en 1968 et vit et travaille en Allemagne depuis 30 ans. Il y a 14 ans, il est devenu directeur de l'ensemble de ballet de Bavière à Munich et il a également travaillé à Düsseldorf, Munich et Hambourg. Côté météo, mardi, jour de la fête des Véronica, le temps sera couvert sur la majorité du territoire avec des chutes de neige locales. Les températures seront comprises entre moins 10 et moins 6 degrés pour les maximales. La nuit, le thermomètre indiquera jusqu'à moins 22 degrés. Fin de ce journal présenté par Magdalena Rosinkova, la suite du programme de Radio Prague avec Anna Kubešta.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et merci à Magdalena Hrozinkova pour son bulletin d'information. Le froid frappe toujours aussi durement la République tchèque et le reste de l'Europe. Ce week-end, des records de température sont tombés un peu partout dans le pays. Dans certaines régions montagneuses, le mercure est tombé à près de moins 40 degrés. Une grande exposition sur le surréalisme tchèque et slovaque est organisée à l'ancien hôtel de ville de Prague à partir de la fin de la semaine et présentera également quelques auteurs français. Et puis, place au sport en deuxième partie d'émission. Bonne écoute de ce programme. Dans la nuit de dimanche à lundi, des records de froid ont été enregistrés dans 93 des 178 stations que l'Institut tchèque d'hydrométéorologie observe quotidiennement. L'arrivée dans les prochains jours d'un manteau nuageux au-dessus du pays devrait permettre de faire remonter sensiblement les températures. Toutefois, en raison d'éclaircies attendues en fin de semaine, les météorologues prévoient à nouveau une baisse significative du mercure et l'enregistrement de nouveaux records. Paul Bauer.
La vague de froid continue de sévir sur l'ensemble de l'Europe où plus de 300 personnes sont mortes en raison des températures extrêmes de ces derniers jours. En République tchèque, l'hiver a déjà emporté plus de 17 personnes. Depuis plusieurs jours, les records de froid n'arrêtent pas de tomber dans les 178 stations d'observation météorologique du pays. Selon l'Institut tchèque d'hydrométéorologie, le record annuel a été enregistré dans la station de Jezernislát u Kvildi, près de Prachatice, dans le massif de la Šumava, où le thermomètre est descendu jusqu'à moins 39,4 degrés, s'approchant ainsi du record historique enregistré durant l'hiver 1929, lorsque le mercure était descendu au-dessous de moins 42 degrés près de České Budějovice. Bien que les météorologues ne prévoient pas de nouveaux records historiques, ils mettent en garde contre le maintien de températures extrêmement froides dans le pays au moins jusqu'au 20 février prochain. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'Institut tchèque d'hydrométéorologie Petr Dvořák. On l'écoute.
Les températures devraient un peu remonter dans les 2-3 prochains jours en raison d'une couverture nuageuse qui devrait s'installer sur le pays. Mais dans la période de 10 au 14 février, le ciel sera à nouveau dégagé, ce qui aura pour conséquence une nouvelle baisse de température. Les moyennes attendues durant cette période seront situées autour de moins 5 degrés. Mais durant les nuits, il n'est pas exclu que nous enregistrions des records encore plus bas que ces derniers jours. Concernant les prévisions à moyen terme, la période de gel devrait par ailleurs s'étendre jusqu'au 20 février, ce qui est peu optimiste.
Pour le climatologue Jan Pretel, plus que les records de froid, c'est la longueur de la période du gel qui est exceptionnelle.
Lorsque nous observons la moyenne des hivers de ces 50 dernières années, nous voyons que les situations de grand froid ont surtout été enregistrées dans le passé proche, c'est-à-dire en 2009, en 2006 ou encore en 1996. Mais selon les moyennes des températures de la semaine dernière et les perspectives dans l'avenir proche, il me semble que cette période de froid fera partie des plus longues.
Les conséquences sociales et économiques des températures extrêmement basses sur de longues durées sont nombreuses. En premier lieu, pour les milliers de personnes sans abri qui sont les premières victimes du froid sibérien. Dans l'ensemble du pays, la capacité des centres d'accueil a été augmentée, mais elle n'est pas suffisante pour répondre à la demande. Alors qu'à Prague, où vivent plus de 4000 sans-abri, tous les centres sont en surcapacité, la municipalité n'a augmenté que 40 places seulement, la capacité initialement fixée à 50 places, que peut contenir la tente de l'île des Rohan installée la semaine dernière près du quartier de Karline. Afin de prévenir d'éventuels décès dus au froid, les associations caritatives, les services sociaux de la ville de Prague et la police municipale effectuent des rondes de nuit dans la capitale. Ce froid exceptionnel a causé de nombreux dommages dans les transports routiers et ferroviaires du pays. Des perturbations liées aux températures glaciales ont été enregistrées sur une dizaine de tronçons ferroviaires, notamment autour de Prague, en direction de Kolín, de Plzeň et de Cheb, et entre Brno et Jihlava. Les températures extrêmes ont également des conséquences sur le secteur agricole. Les éleveurs enregistrent ainsi depuis plusieurs jours une baisse significative de leur production de lait et d'œufs et risquent d'engranger des pertes estimées à plusieurs dizaines de milliers de couronnes par exploitation. Enfin, en raison de la longueur de la période de froid et de l'accroissement des besoins énergétiques, la qualité déjà mauvaise de l'air dans la région de Moravie-Silésie continue de se détériorer. Alors que la limite des poussières industrielles dans l'air a été fixée à 50 microgrammes par mètre cube, la moyenne de la région se situe actuellement autour de 100 microgrammes mètre cube. Étant donné les perspectives de la météo, les autorités ne s'attendent toutefois pas à une amélioration de la situation dans les prochains jours.
À partir du 10 février et jusqu'au 4 avril, la galerie de l'ancien hôtel de ville de Prague propose une grande exposition consacrée à 20 ans de création surréaliste tchèque et slovaque. De nombreux auteurs étrangers, français notamment, sont également présentés dans le cadre de l'exposition intitulée « Un autre air ». Le surréalisme, mouvement artistique et littéraire né en France avec André Breton dans l'entre-deux-guerres, a dès le début fait des émules à l'étranger. Et la Tchécoslovaquie est l'un des pays où il s'est fortement épanoui, notamment en raison des liens qui existé à l'époque entre les deux nations. Depuis, le surréalisme n'a pas cessé d'exister, bien au contraire. Dans les pays tchèques notamment, il est encore particulièrement actif avec l'un de ses plus grands représentants, Jan Švankmajer, cinéaste mais aussi expérimentateur tous azimuts de nouveaux types de créations. Dans la galerie de l'ancien hôtel de ville de Prague, il présentera à partir du 10 février diverses expérimentations, dont une œuvre un peu particulière.
J'ai plusieurs cycles qui sont présentés, mais j'y présente notamment une expérimentation que je réalise en commun avec de la pierre thermale à Karlovy Vary. Je place des objets dans l'eau thermale qui laisse ses sédiments. C'est ainsi que d'étranges fossiles voient le jour.
L'exposition « Un autre air » ou « Jiný vzduch » en tchèque retrace 20 ans de création surréaliste. Elle est la plus grande exposition organisée depuis le premier événement de ce genre dans la nouvelle Tchécoslovaquie libre au début des années 90. Auparavant, sous le communisme, les choses étaient évidemment bien plus compliquées, comme le rappelle František Dreje, rédacteur en chef de la revue surréaliste Analogon.
Sous le communisme, la toute dernière exposition collective surréaliste libre s'est déroulée en 1966. Évidemment, après l'occupation de la Tchécoslovaquie en 1968, le surréalisme a dû retourner dans l'illégalité. Nous n'avions pas le droit d'exposer. Un peu plus tard, dans les années 1980, quelques possibilités d'exposer ont vu le jour. Nous avons pu, par exemple, installer une exposition au château de Sovinets, mais au dernier moment, la STB, les services de sécurité d'État, nous ont forcés à l'annuler.
C'est avec le retour de la démocratie en 1989 que les surréalistes peuvent à nouveau exposer librement. Pendant toute la période de la normalisation, les liens entre le groupe surréaliste de Prague et celui de Paris permettent aux Tchèques et aux Slovaques de s'exprimer hors des frontières de leur pays. Les liens entre les surréalistes tchèques et français sont donc primordiaux, comme le rappelle Jan Švankmajer.
Ces relations sont, depuis les années 1970, très intenses. Le groupe de Prague ne pouvait pas publier, s'exprimer. Les Français nous ont permis de publier dans leur revue. Aujourd'hui, nous leur rendons l'appareil et nous publions les surréalistes français dans notre revue Analogon. En outre, des artistes français vont être présentés à l'occasion de cette nouvelle exposition. Et l'an dernier, j'ai eu droit à une grande rétrospective de mes films à Paris.
Loni na podzim jsem měl retrospektivu svých filmů v Paříži.
Un autre air est une exposition, mais celle-ci va de pair avec de nombreux événements annexes, comme des projections de films au cinéma Pondrepo à Prague, des visites commentées ou encore des soirées littéraires, tous les jeudis au café littéraire de la rue Retiazova. Que peut apporter le surréalisme aux vies de chacun? Réponse de Jan Švankmajer.
Le surréalisme contemporain se définit en contre-pied de la civilisation actuelle. Dès les années 1930, le surréalisme a voulu, selon son adage, changer le monde, transformer la vie. Même si cela semble aujourd'hui une utopie, je pense que c'est toujours actuel, en tout cas dans la création à proprement parler. Et ce, quand bien même cette idée est vouée à l'échec. Je pense qu'aucun auteur ne peut se donner d'autres objectifs que de changer le monde et transformer la vie.
Voilà, et plus d'informations sur l'exposition Un autre air sur le www.analogon.cz. Tout de suite, on passe à la deuxième partie de notre programme, suite cette semaine de l'entretien avec Yorick et Sacha Treille, les deux internationaux français de hockey sur glace qui portent le maillot du Sparta Prague. Après une saison dernière catastrophique à l'issue de laquelle le plus prestigieux des clubs tchèques ne s'était pas qualifié pour les play-offs et avait même été contraint d'en passer par les barrages pour conserver sa place dans l'élite, le Sparta revit cette saison. Premier du classement à quelques journées de la fin de la saison régulière, les Pragois figurent avant même les play-offs parmi les grands favoris pour le titre de champion de République tchèque. Déjà présent la saison dernière, Jorik Treje fait partie des quelques rares joueurs que les dirigeants ont décidé, malgré la médiocrité des résultats, de conserver pour reconstruire une équipe plus compétitive. Une marque de confiance forte pour Jorik Treje, comme il l'a confié au micro de Guillaume Narguet.
« sport en République tchèque.
Bah, moi, l'année dernière, ça veut dire qu'ils ont été satisfaits de mon arrivée, même si j'ai été blessé aussi et j'ai loupé toute la fin de saison. J'avais fait relativement un bon début de saison, peut-être au-dessus de leurs attentes même, et c'est pour ça qu'ils ont décidé de me conserver. Mais après, dans le hockey, ça va très vite et il faut toujours se remettre en question et refaire ses preuves. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui dure. Donc, moi, je le prends comme ça. Je suis content d'être ici maintenant, mais j'essaie de faire mes preuves à chaque match et puis on verra. Mais c'est sûr que le fait que le management m'ait fait confiance, ben, ça donne de la confiance et puis ça motive pour travailler encore plus fort et essayer d'aider l'équipe à gagner, c'est sûr.
Alors, la situation du Sparta de Prague, que ce soit le hockey sur glace, le football, est un peu similaire, on va dire, quand, si on prend le championnat de France de foot, quand le Paris Saint-Germain ou Marseille se déplace quelque part, c'est toujours un événement pour le club qui reçoit. En République tchèque, c'est un peu la même chose avec le Sparta. Pour vous, en tant que joueur du Sparta, est-ce que c'est agréable quand vous vous déplacez à Ostrava, à Brno, à Plzeň, à Pardubice, où il y a quand même tous des clubs où il y a une forte rivalité avec le Sparta, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous et de très motivant quand vous jouez à l'extérieur?
Ouais, on joue souvent dans les salles pleines. À chaque fois qu'on se déplace, l'équipe qui nous reçoit, ils font souvent leur meilleure recette, ils font salle pleine. Donc déjà, quand une patinoire est pleine, ça motive direct, c'est sûr. Et puis souvent les équipes nous détestent entre guillemets et ils vont souvent faire leur meilleur match contre nous. Et moi je pense que c'est un avantage pour nous parce qu'on est souvent testé et on n'a pas le droit de passer à travers un match. Les équipes en face sont toujours prêtes contre nous. Et je pense que cette année on a réussi à être prêt pour ça par rapport à l'année dernière par exemple.
Quelle est aujourd'hui votre situation? Est-ce que vous pensez déjà à l'avenir? Est-ce que vous envisagez de rester en République tchèque? Ou est-ce que vous aimeriez encore découvrir autre chose et voir peut-être encore un peu plus haut que le Sparta, le championnat tchèque?
Au jour d'aujourd'hui, au niveau contractuel, donc pour l'année prochaine, on est logiquement encore sous contrat avec le Sparta. Même si en République tchèque, des fois, comme j'ai déjà dit, ça peut vite changer. Mais donc au jour d'aujourd'hui, non, c'est de finir la saison ici avec essayer de gagner un titre pour le Sparta, bien sûr. Et puis, on a encore des années de contrat, moi encore une, et Sacha encore une année plus une année d'option, il me semble. Donc, si on pouvait rester ici et jouer ensemble, c'est notre objectif pour l'instant. Enfin, pour moi, à mon âge, on va dire, où je suis quand même plus en fin de carrière, même si je ne suis pas encore considéré encore âgé pour le hockey, mais j'y arrive. Pour moi, au jour d'aujourd'hui, si je peux rester ici et continuer à prendre du plaisir et à gagner des matchs avec le Sparta, ça me va très bien. Sacha est encore plus jeune, donc peut-être qu'il a peut-être d'autres objectifs.
Non, bah c'est vrai qu'on est toujours sous contrat, mais comme mon frère l'a dit, dans le hockey ou dans le sport en général, ça peut aller très vite, donc il faut s'attendre à tout. Mais officiellement, on est toujours sous contrat, donc on va déjà essayer de bien finir cette saison et puis on verra à la fin de la saison comment ça se passera.
Quel est l'intérêt en France par rapport à votre carrière ici en République tchèque? Vous êtes tous les deux en équipe de France. Est-ce que vos partenaires s'intéressent à votre vie, à votre parcours ici en République tchèque? Et est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Est-ce que vous pouvez être un exemple pour d'autres joueurs français?
Je pense que déjà au jour d'aujourd'hui, l'équipe de France connaît beaucoup plus de joueurs qui évoluent dans les championnats étrangers. Donc c'est des joueurs qui s'intéressent à nous, oui, et on s'intéresse aussi à leur championnat. Et je pense que le fait d'être exemple, ça y fait, parce que quand moi j'étais donc sans club, mon frère était déjà en République tchèque et ça m'a ouvert les portes. Donc pourquoi pas ouvrir des portes à d'autres personnes? C'est un très bon championnat et si quelqu'un un jour a la chance d'évoluer dans le championnat, je lui conseille de y aller parce que c'est super.
Ouais, je pense qu'on garde pas mal de contacts avec, comme il a dit Sacha, les autres joueurs de l'équipe nationale ou même nos amis. C'est sûr qu'ils nous suivent, on se suit un peu tous. Même nous, on suit le championnat de France, nos amis là-bas, les autres internationaux qui évoluent en Suisse ou en Suède ou même en Allemagne, on les suit régulièrement. Et puis après, je pense que pour le hockey français, pour l'équipe nationale, à l'heure d'aujourd'hui, plus on aura de joueurs qui pourront donc s'expatrier dans des bons championnats européens, ce sera bénéfique pour l'équipe de France. Et si on peut ouvrir des portes comme en performant bien dans des championnats comme ça pour d'autres Français, d'autres jeunes qui ont du talent et qui veulent réussir à l'étranger, c'est tant mieux, oui, c'est sûr, ce serait bien si on pouvait ouvrir des portes.
Vous pensez que c'est possible? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de la part des Tchèques?
Je pense que, en fait, peu importe qu'on soit français ou si le joueur a le niveau pour aider l'équipe. Après, c'est sûr qu'avec des relations, et puis peut-être après, ils peuvent suivre au niveau des championnats du monde. Si des joueurs d'équipe de France qui jouent en France font des bons championnats du monde. Une fois, ça avait été après les championnats du monde en Allemagne, il y avait un joueur français qui avait eu des contacts avec un club tchèque parce qu'il me connaissait, donc ils lui avaient proposé de venir, mais ça s'était pas fait au final. Mais c'est sûr que comme ça, ça peut créer des liens, ouvrir des portes. Et s'il y a d'autres Français qui viennent, tant mieux. Mais je pense que les équipes, on peut dire qu'ils s'en fichent que la nationalité. S'ils pensent que le joueur peut les aider, aider l'équipe, ils ont toujours un intérêt pour un joueur qui peut aider, quoi.
Puisqu'on évoque l'équipe de France, depuis plusieurs années maintenant, elle parvient à se maintenir dans le groupe mondial. Que manque-t-il pour encore passer cette phase du premier tour et jouer autre chose que le maintien ?
Non, c'est sûr que ça fait quelques années qu'on progresse, l'équipe de France progresse, on arrive à se maintenir maintenant, ça fait à peu près 5 ans, donc c'est déjà un bon truc. Maintenant, c'est sûr que l'objectif de pouvoir franchir un autre palier, je pense qu'on en est proche. Et il y a de plus en plus de joueurs qui évoluent à l'étranger, et cette équipe de France, moi en tout cas, j'ai une grande confiance en elle, je pense qu'elle peut faire quelque chose de très bien cette année. Mais c'est pas facile, le niveau, toutes les équipes progressent, donc plus on a de joueurs qui évoluent dans les bons championnats, plus on aura de chance après de rivaliser au niveau des championnats du monde. Parce que c'est des matchs au championnat du monde, il y a une grosse intensité, et les joueurs qui évoluent en France, ça leur fait quand même une grosse différence, même si c'est des très bons joueurs également. C'est juste qu'ils n'ont pas forcément la chance de jouer à ce niveau-là régulièrement pendant toute l'année. Donc des fois, il y a de s'adapter sur une durée de 2 semaines avec des matchs qui changent d'intensité, c'est pas évident pour ces joueurs. Donc plus on a de joueurs qui évoluent dans ces championnats-là, et plus on aura de chance de gagner.
Il y a ça 2 ans, la France avait affronté la République tchèque pour son premier match de groupe avec une, je sais plus le score, mais une assez large défaite. Est-ce que pour vous déjà c'était un match un peu particulier? Et quel est le, qu'est-ce que les Tchèques savent par exemple du hockey français?
Mais je pense que les Tchèques, ils savent pas vraiment grand-chose du hockey français, mais ils savent maintenant que ils sont obligés de nous respecter un peu plus qu'avant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de match facile au niveau des championnats du monde. Et donc souvent les équipes, ils attaquent très fort et ils ne nous prennent pas vraiment à la légère, même si après ils arrivent à se mettre des fois à l'abri de, s'ils arrivent à marquer 3-4 buts, des fois ils lèvent un peu le pied. Mais maintenant avec les équipes comme la Norvège, le Danemark, toutes ces équipes-là qui ont créé souvent des surprises dans un championnat du monde qui est vraiment un tournoi à court terme, les équipes ne peuvent pas se permettre de louper un match. Donc voilà, après c'est sûr que je suis pas vraiment à leur place, je sais pas ce qu'ils pensent de nous, mais je pense qu'ils sont obligés de se donner à fond au début en tout cas, et puis suivant comment les matchs se passent, des fois ils ont un peu plus de marge, mais on a réussi à accrocher des équipes même comme la Suède où ça avait fini que 3-2 l'année dernière, donc ils rigolaient pas trop, quoi.
Dernière question, on a évoqué la vie à Prague qui est agréable pour vous deux. En assistant à l'entraînement, j'ai marqué que entre vous parliez anglais. Où en êtes-vous avec le tchèque ?
Avec le tchèque, moi j'arrive à comprendre au niveau du hockey avec les mots qui reviennent très souvent. Et quand les coachs parlent, je comprends quand même assez bien. J'ai pas trop besoin de traduction. Mais on a des Américains aussi, donc on parle en anglais. Et puis on a les coachs assistants qui traduisent. Mais bon, le tchèque, ça reste une langue assez difficile à apprendre. Mais je me débrouille un peu, j'arrive à comprendre et j'arrive un peu à m'exprimer. Mais c'est pas encore. Ça devrait être mieux si je m'étais un peu plus investi, je pense.
C'est pas un regret ?
Un petit peu. Enfin. Non, je continue à essayer d'apprendre à ma façon, un petit peu en écoutant les autres, en demandant comme ça. Mais je commence à bien comprendre et j'arrive à me débrouiller dans la vie de tous les jours si vraiment il y a un problème. Mais je peux pas dire que je parle couramment le tchèque, mais ça vient tout doucement en tout cas.
Moi, de mon côté. Ça fait que un an et quelques mois que je suis ici, donc c'est encore assez difficile. J'ai la chance d'avoir Yorick à mes côtés qui parle assez souvent, que ce soit dans les restaurants, donc j'essaie d'enregistrer un petit peu, mais c'est vrai que c'est une langue qui est assez difficile. Et puis avec le hockey, ça va tellement vite que du jour au lendemain on peut se retrouver en Finlande, donc des fois, il n'y a pas vraiment d'intérêt de se mettre à fond dans une langue, même si c'est toujours, ça peut être bénéfique pour la suite.
Est-ce que la vie d'un quotidien d'un joueur de hockey permet de faire autre chose, de découvrir le pays ? Qu'est-ce qui vous plaît plus particulièrement ou vous déplaît ici en République tchèque ?
Oui, on a quand même beaucoup de temps libre, même si y a beaucoup de fatigue, donc on essaie de se reposer dans les après-midi libres. Mais c'est sûr que de marcher juste de marcher dans les rues de Prague, c'est tout ce qui est architecture, c'est vraiment super joli et c'est je trouve une ville assez reposante, parce que même si c'est une capitale et qui est peuplée pour la République tchèque, ça reste quand même une petite ville pour l'Europe, et donc on trouve tous les avantages d'une grande ville et à la fois les avantages d'une ville reposante, enfin, pour moi.
Pour vous ?
Non, moi je dis on est très content d'être à Prague. C'est vrai qu'on se repose beaucoup les après-midi. Ça fait partie aussi de notre quotidien, c'est-à-dire on s'entraîne assez souvent les matins, on joue beaucoup de matchs et l'après-midi on se repose un peu, on se balade en ville quand on a le temps, on essaie d'aller de temps en temps au cinéma. Et non, il n'y a rien vraiment à Prague qui me déplaise, mais il n'y a que du positif, c'est une ville que j'adore en fait.
Voilà, c'est avec cet entretien avec Yorick et Sacha Trey, joueurs de hockey sur glace au Sparta Prague, que s'achève cette rubrique sportive de la semaine. C'est également avec eux que s'achèvent les émissions en français de Radio Prague. Vous pouvez retrouver tous ces sujets sur notre site internet, le www.radio.cz/fr, et ce, sous forme d'articles, sous forme de podcasts, mais également en streaming. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.